12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à un seul événement artistique, le Festival du dessin d'Arles. Pour cette deuxième édition qui court du 20 avril jusqu'au 19 mai et qui se déploie partout dans le centre-ville d'Arles, c'est Tommy Ungerer qui est mis à l'honneur. Vous connaissiez Les Trois Brigands ou Jean de la Lune, vous allez découvrir ses dessins politiques, satiriques, noirs, bref, ses dessins pour adultes. Mais vous allez aussi découvrir une quarantaine d'expositions, de quoi rappeler l'ampleur historique du dessin et son renouveau actuel.
Et pour nous accompagner ce midi, en plus de ces petites cigales mises par Louise André, notre réalisatrice, nous accueillons
deux autres petites cigales.
Exactement, j'allais les présenter de la sorte. Corinne Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, maître de conférence en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art face à vous, Stéphane Coréard. Stéphane, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Critique d'art, commissaire d'exposition, directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Soyez tous et toutes les bienvenus dans les Midis de Culture.
Alors une fois n'est pas coutume, on commence ce midi avec une présentation de ce festival, le Festival du dessin d'Arles dans son ensemble. C'est quoi? C'est pour qui? Ça ressemble à quoi? Dites-nous tout, Stéphane Coréard.
Oui, on connaît Arles comme une ville de culture, notamment pour les rencontres de la photographie qui existent depuis plusieurs décennies. Le Festival du dessin a été créé un peu sur le même modèle, c'est-à-dire qu'effectivement, il envahit toute la ville d'Arles, tout le centre-ville, comme vous l'avez dit, plusieurs musées, plusieurs espaces qui parfois sont plus ou moins connus, y compris des Arlésiens. C'est sa deuxième édition, il a été créé l'année dernière à l'initiative de Vera Michalski, qui est une mécène, qui est la sœur de Maya Hoffman, qui a créé la fondation Luma à Arles. La famille Hoffman est très implantée à Arles depuis toujours, mais elle a choisi vraiment une toute autre voie de mécénat, puisqu'elle est vraiment plus dans le livre. Elle est présidente du groupe éditorial Libella, qui comprend notamment Buchet-Chastel, mais aussi Delpire & Co, ce qui ramène de vers la photo, et fondatrice de la fondation Yann Michalski, qui était son mari, qui était un grand intellectuel, et notamment elle a une fondation en Suisse avec des cabanes d'écrivains, et elle a créé ce festival avec Frédéric Pajac, qui est une grande personnalité de la culture et du dessin notamment. Il est lui-même écrivain, dessinateur, directeur de la maison d'édition Les Cahiers Dessinés, qui appartient au même groupe. Il est donc auteur de livres, notamment sur Walter Benjamin, sur Kafka, sur Pessoa. Il est surtout connu pour les 9 tomes de son roman graphique Le Manifeste Incertain, dont le troisième avait reçu le prix Médicis Essai en 2014. Et il est également donc éditeur, c'est lui qui dirige Les Cahiers Dessinés. Il a fait des livres de référence, on en a parlé ici, sur Marcel Bascoulard, le clochard inventé de Bourges.
Que vous aimez beaucoup, Stéphane.
Que j'aime particulièrement, c'était mon coup de cœur, mais aussi les dessins de Courbet, Folon, Ferdinand Hodler. Il a fait un livre extraordinaire sur Valentine, la femme de Ferdinand Hodler, dont il a dessiné toute l'agonie. Topor. Enfin, on voit que c'est le dessin tous azimuts, c'est le dessin sans limites, sans frontières.
Et pourquoi il y a eu besoin de ce festival?
Parce qu'il n'y avait que des foires commerciales, finalement, qui existaient sur le dessin, et pas de festival, et surtout pas de festival qui brasse à la fois toutes les époques et toutes les techniques et tous les styles, puisque c'est aussi bien donc de la BD, du dessin d'illustration, de l'art moderne, de l'art contemporain, des expérimentations. Il y a tout ce qu'on peut faire avec le papier. Il y a aussi l'estampe, ce qui est très important, parce que souvent elle est oubliée, et là, on va voir encore cette année au festival, qu'il y a des très grands graveurs. Il y a une équipe assez formidable autour de lui, Julie Bouvard, qui est la directrice aussi adjointe du festival, et puis il choisit des commissaires pour l'épauler, qui sont des grandes personnalités de cet univers. Alexandre Deveau, notamment, qui est chargé des collections de dessins de presse à la BNF, ou Michel Thévoz, qui était le premier responsable de la collection de l'art brut à Lausanne. Et c'est tout ce qu'on retrouve au sein de ce festival. L'année dernière, effectivement, il y avait déjà une quarantaine d'expositions, et l'invité d'honneur était Sempé, qui venait de disparaître. Mais par exemple, à la fondation Van Gogh, il y avait ce que j'ai trouvé être la chapelle Sixtine du dessin. L'année dernière, il y avait une exposition qui s'appelait Dessin à la marge, avec notamment Victor Hugo, Aloïse, grande créatrice d'art brut suisse. Il y avait le bestiaire de Pierre Talcoat, gravé, Bascoulard, Jean Rennes. Enfin, c'était vraiment la quintessence du dessin de toutes les époques.
Et là, on retrouve cette même diversité. Un mot, Corinne, sur ce festival, ou alors sur Frédéric Pajac aussi, qui, voilà, Stéphane l'a dit, est très prolifique dans le domaine du dessin.
Ah oui, non, mais c'est vraiment un festival, excusez-moi pour la voix, hein, non, mais un festival formidable. Moi, je n'ai pas vu la première édition, mais la deuxième édition ressemble sur son sans frontières à la première édition, à l'évidence. Mais c'est surtout que c'est un véritable choc. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi il n'y a pas eu de festival du dessin avant. Parce qu'en fait, la dimension du dessin c'est quand même quelque chose, chaque fois que vous êtes dans un lieu d'exposition où il y a plusieurs personnes chaque fois exposées, dans chacun des lieux, vous ne pouvez pas vous dire « j'ai raté quelque chose ». C'est-à-dire qu'il y a d'abord une très grande qualité des choix qui sont faits. Deuxièmement, la question du dessin, que ce soit la gravure, enfin tout ce qui est lié au travail du corps et de la main, finalement, ça vous renvoie de la modestie à une exigence disciplinaire. Vous êtes face à des gens qui sont dans la durée. Ils sont investis dans des formats. Et ce qui fait événement pour le spectateur, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres à voir, c'est vraiment l'événement de l'agencement de ces signes sur une surface. Et en fait, c'est pas, c'est bien dessiné, le thème me plaît, moi j'adore les paysages, je ne sais, c'est pas ça qui compte. C'est qu'à un moment donné, vous êtes confronté à quelque chose qui vous dit, il y a quelqu'un là qui s'est mis dedans. Et ça, c'est vraiment un effet qu'on ne trouve plus dans l'art contemporain. Donc moi, mon grand
choix... Et qu'on retrouve qu'avec le dessin.
Alors, il n'y a pas que du dessin, puisque là, on a de la peinture, enfin, tout ce qui est de l'ordre, la main et le corps. C'est-à-dire, c'est pas la photographie où, finalement, quand vous faites un dessin de paysage, ben, quand vous en faites un, il faut recommencer. C'est un peu Beckettien. Rater encore, rater mieux, c'est-à-dire recommencer encore. Et ça, cette dimension du corps, vous l'avez tout le temps, à chacun des endroits, que ça vous plaise ou que ça ne vous ou ça vous déplaise, que ce soit avec des choses qui, moi, sont plus éloignées de moi, comme la BD, ça marche quand même, parce que, justement, on est au cœur des lignes. Il y a un rapport, comme l'a dit Stéphane avec Paja, qui est quand même très littéraire, sont des gens, et pour parler aussi de cette revue des cahiers dessinés, qui est l'amour, on voit bien que les noms qu'a énoncé Stéphane, comme Julie Bouvard, par exemple, sont des gens dans cette revue. C'est aussi que ce festival, ce sont des gens qui travaillent de manière singulière, et en même temps, ils sont tous ensemble autour d'une actualité. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ce que j'ai vu, c'est que toutes ces mains sont toutes singulières, mais toutes ces mains, c'est une réalité. Et ce que j'ai vu dans ces expositions, de la même manière que dans la revue, je dirais, c'est vraiment cette manière d'être confronté à des réalités distinctes qui se valent toutes pour la réalité qu'elles incarnent avec humour, mordant, romantisme, ce qu'on veut. Je veux dire. Et ça, c'est vraiment, moi, ça a été une sorte de révélation. Je me dis, et pourtant, il y a des artistes contemporains autant qu'il y a de l'art moderne, et même un peu avant, on va dire, puisqu'il y a la commune qui est représentée. Vous vous dites, mais en fait, la ligne en tant que ce qu'elle était, même à la Renaissance, c'est-à-dire que le dessin était une ressource, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours mieux résoudre une idée avec un dessin que les raisons logiques de la raison elle-même. Donc, à un moment donné, vous vous dites, mais ces gens-là n'ont pas oublié ce qu'a été la ligne. Et d'un coup, il y a une sorte de transhistoricité à Arles pendant 4 semaines. Et vous vous dites, putain, mais je me prends des beignes à longueur de temps et je n'ai plus vécu de sensations aussi fortes par rapport à d'autres festivals d'art contemporain. Et là, je me dis, allez, faut aller à Arles.
Bon, on va y aller et on va parler de Tommy Ungerer. Donc, c'est l'invité d'honneur de cette deuxième édition du Festival du dessin à Arles.
Il y a beaucoup de dessins comme ça que l'on m'a reproché parce qu'on les a mal compris, ou disons plutôt mal interprétés, parce qu'un dessin ne se comprend jamais, un dessin s'interprète. Je prendrai l'exemple, par exemple, d'un enfant agenouillé devant un crucifix. Et sur ce crucifix, eh bien, il y a un Mickey Mouse de crucifié, un Mickey Mouse de Monsieur Walt Disney. Si je ne fais ça, ce n'est pas par irrespect pour la religion, mais par irrespect justement pour le monde de Walt Disney qui symbolise le matérialisme effréné qui a vraiment pénétré le monde du jouet.
L'invité d'honneur de cette deuxième édition du Festival du dessin, c'est donc, je l'ai dit et je le répète, c'est Tommy Ungerer. Tommy Ungerer, que l'on connaît notamment pour ses livres pour enfants. Les Trois Brigands, Jean de la Lune, mon préféré, La Grosse Bête de Monsieur Racine. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je l'aime beaucoup. Mais bah, vous le connaissez pas, Corinne? C'est une rire?
Non, c'est une toux, pardon.
Ah, pardon. Mais Tommy
Ungerer. Moi, c'est un rire. C'est...
Bon, très bien. Mais Tommy Ungerer, c'est aussi un dessinateur pour les grands, satire, politique. Ce sont ces dessins-là que l'on découvre à Arles, Stéphane Coréard.
Oui, il y a aussi des ateliers pour enfants à partir de son œuvre, puisqu'effectivement, ce qui est génial, c'est que le talent protéiforme de Tommy Ungerer, un peu d'ailleurs comme Sempé, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, je pense, comme invité d'honneur. C'est une figure fédératrice, effectivement, parce qu'il est connu, mais aussi parce que c'est un personnage éminemment complexe. Il bénéficie donc à ce titre, effectivement, d'une mini-rétrospective dans les espaces du musée Arlatène d'Arles. Et il y a une soixantaine de dessins. Et d'emblée, quand on rentre, ce qui est intéressant, Ungerer est né en 1931, on pense immédiatement à Saul Steinberg. Saul Steinberg, c'est le génial dessinateur américain qui lui était né une quinzaine d'années avant et qui a marqué toute la génération suivante, a été obligé de se définir par rapport à lui, tellement il avait été inventif dans ses dessins, dans ses collages, dans son œuvre qui est à la frontière de l'illustration et de l'art contemporain. Et là, effectivement, on voit aussi les mêmes moyens, comment Ungerer, avec son génie propre, s'y confronte. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Ungerer, lui, est un Européen et qu'il a vécu aux États-Unis. Et moi, ce qui m'a passionné, justement, c'est cette vision extrêmement caustique, extrêmement ironique que Ungerer porte sur l'Amérique, avec toujours une œuvre pleine d'humour, avec de l'absurde, évidemment, du tragique, mais une économie de moyens qui est remarquable, un sens du raccourci qu'on voit, par exemple, dans ses collages. Il y a, par exemple, une grosse Cadillac, comme ça, avec un petit bonhomme dedans, symbole de l'American Way of Life, mais les ailerons arrière, ce sont des carabines à l'envers. Bon, bah là, tout est dit vraiment de l'Amérique, d'une manière justement que Steinberg n'aurait pas forcément approuvé. J'ai pensé aussi beaucoup à Beckett. Je crois que voilà, Corinne parlait de Beckett. Il y a un vrai voisinage entre l'œuvre d'Ungerer et celle de Beckett. Beckett disait que le rôle de l'artiste, c'était la tâche de l'artiste, c'était de trouver une forme qui accommode le désordre. Et ben justement, en faisant un collage aussi simple que ça, finalement, c'est exactement ce que fait Ungerer. Il réemboîte les choses, il remet les choses en perspective. La partie la plus géniale de l'exposition, pour moi, c'est celle qui est consacrée au dessin d'un livre mythique qui est The Party.
Oui, parlez-nous de ce livre.
Un livre auto-édité à New York à New York même, au cœur en fait de ce monde que dénonce Ungerer, qui est en fait un monde totalement factice, artificiel, où des politiciens, des financiers, des gens du show business, des littérateurs passent leur vie dans des soirées complètement vides. C'est une charge contre la mondanité, contre cette vacuité effectivement insondable, contre sa monstrueuse prétention. Tout l'inverse de ce qu'est le festival d'Arles. Des messieurs en smoking et des dames en robe longue se bavent littéralement dessus. Le baise-main dégénère en lèche-bras. Les langues deviennent des vraies vipères, visqueuses et
sinueuses. Les cheveux en forme de poulpe, un peu, la joie.
Mais c'est ça. Tout devient organique comme ça, et ça devient comme un monde sous-marin que Ungerer observe avec un sens aigu de l'humour et de la cruauté. On pense évidemment au film The Party aussi de Black Edwards, mais qui est de 68, de deux ans après. Je pense aussi à un texte de Tom Wolfe que je conseille à nos auditeurs, Radical Chic, un texte de 70 qui est repris dans un génial livre chez Gallimard qui est Le Gauchisme de Park Avenue, et où il parle d'une soirée de levée de fonds pour les Black Panthers organisée dans un appartement très chic à New York sur la 5e avenue.
Mais ce qui est surprenant là dans les dessins que je tiens dans le gros catalogue de Ungerer, c'est vraiment là, on dirait qu'il avait un stylo plume et que vraiment il écrase presque, c'est très fin en fait, ça n'a rien à voir avec les dessins qu'on peut retrouver notamment dans ses albums pour enfants, où là c'est beaucoup plus coloré, avec des traits beaucoup plus gros. Là il y a quelque chose presque de gravé dans le papier.
Ah oui, c'est un scalpel avec lequel il ausculte la société effectivement américaine, avec un sens que je disais de l'économie, effectivement, c'est-à-dire que d'un simple trait, il peut évoquer plus qu'une silhouette. La relation en fait entre deux personnes est déjà dans cette ligne de frontière qui dessine entre elles. C'est un dessinateur vraiment exceptionnel, et justement je pense que c'est le sens même de ce festival, en abolissant les frontières, en fait, de rappeler que quelqu'un comme Tommy Ungerer est un immense dessinateur du niveau d'un Hans Bellmer, par exemple.
Mais ça, c'est quelque chose qui était oublié, selon vous, Stéphane Coeur?
Comme l'a dit un peu Corinne, c'est-à-dire que dans la contemporain, on aime bien faire des cases. Tommy Ungerer s'y fait une petite place. Il a un musée à Strasbourg, la Galerie Valois a montré son travail, mais c'est pas quelqu'un qui a eu la reconnaissance. Simplement, c'est effectivement Ingres disait, le dessin est la probité de l'art. Il y a une forme, effectivement, quand on dessine, ben on a, c'est ça, on a une plume, on a un papier, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et ben quand on est Tommy Ungerer, c'est du niveau de Rembrandt, c'est un immense dessinateur.
Alors, une autre exposition phare du Festival du Dessin d'Arles, c'est La Joie de l'Innocence, Robert Coutelat et Jean Dubuffet. C'est au musée Réattu. Alors, autant Jean Dubuffet, on le connaît comme l'inventeur de l'art brut. Mais alors, qui était Robert Coutelat? Pourquoi ce rapprochement entre ces deux artistes? Corinne Rondeau.
Alors oui, La joie de l'innocence n'est peut-être pas le meilleur titre pour les réunir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu réunir ici deux fonds qui sont très distincts, puisque l'un vient des arts décoratifs, avec un département de dessin, papier peint et photo énorme, et qu'on ignore trop souvent, qui comporte à peu près 950 000 pièces. Ici, on a une cinquantaine du buffet, puisqu'il les a offerts au musée d'art décoratif en 67. On en a de la fin des années 40, au début 40, jusqu'aux années 60. Et puis, vous avez effectivement Robert Koutla, qui est le plus méconnu des deux, évidemment, mais qui est culte au Japon. Et donc là, il faut remercier celle à qui il a légué son travail, Mariko Molia Kishi, dont il y a un site, on peut retrouver une série de ses travaux. Et la partie la plus connue de Robert Koutla sont les cartes, et c'est ce qui est exposé là.
Alors ça ressemble à quoi, Robert Koutla ?
Alors, Robert Koutla, vous imaginez un tarot, vous voyez ce qu'est un tarot ?
Oui.
Bon, eh bien, il a fait des petits formats qui ressemblent, il y a deux tailles sur ces cartes, il l'a peint sur carton, et ces formes sont à la fois répétitive et non répétitive. Vous avez des motifs qui reviennent, comme par exemple le cul par-dessus tête, que j'apprécie particulièrement. Une forme où il y a très peu d'écriture, mais quand c'est l'écriture, revient souvent la formule liberté ou la mort. Et puis des pavements, des châteaux, des figurines géométriques, très simples, plutôt bichromatiques. Et c'est d'une beauté folle. Il a laissé des agencements de cartes à plusieurs. Il y a des encadrements, il y en a deux là, notamment à Arles, qui permettent de voir est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'on a une signification. Non. Alors c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, qui est devenu tailleur de pierre et qui, autant Jean Dubuffet a souhaité s'extraire pour faire de l'ouvrage et pas des œuvres, pour rester l'amateur et un amateur. Donc c'est vraiment, il se constitue comme un exilé de la culture par une anticulture. Alors que Robert Koutla, c'est plutôt, j'ai le désir d'être seul, j'ai le désir de l'antimondanité, mais c'est plutôt un désir, un mode d'être, plutôt qu'un choix politique comme Dubuffet. Donc on a dans cette joie de l'innocence l'idée de deux exilés, de deux personnages qui vont nous dépayser, la représentation, etc. Écoute là, alors vraiment c'est vraiment le... Moi je trouve que c'est... D'abord c'est un travail qui doit se regarder de près, comme d'ailleurs Dubuffet. Faut mettre l'œil sur les choses. C'est pas des gens qui vous disent, à part Lourloupe, vous savez, de l'œuvre la plus connue de Dubuffet. Moi, je l'appelle la tête de gondole de Dubuffet. Ah, on l'a repéré, il y a du Dubuffet ici. Chez Koutla, vous n'avez pas ce côté, il y a quelque chose qui veut se manifester. Chez Koutla, c'est cette liberté ou la mort. Et en fait, Koutla, c'est, vous avez une série tellement infinie, il y a plus de 3000 cartes de chez Koutla, ces petites cartes, donc. Et vous vous dites, en fait, ce type a passé sa vie à peindre ses cartes, parce que chaque carte est un morceau de vie, c'est-à-dire un morceau d'aujourd'hui. C'est la liberté ou la mort, et la liberté, c'est la vie. Et peindre, de mon point de vue, c'est justement incorporer dans ces petites cartes, qui restent énigmatiques, qui restent un mystère, dans leur agencement, dans leur association, ça reste une sorte de beauté singulière à chacune. Alors là, il y a eu une volonté d'accrochage, parce que sur certaines cartes, il met son nom avec une date. Donc, mais on ne sait pas exactement si l'ordre dans lequel ça a été accroché, c'est ça, c'était... Mais ça, moi, ça me signifie... Voilà, il y a quelqu'un qui s'est mis dans le temps pour peindre ces cartes où il y a, à l'évidence, des portraits, des petits corps, des petites fleurs, des étoiles, des toutes petites choses, mais des choses d'une délicatesse qui vous donne toujours envie de vous dire la liberté, c'est aussi d'apprendre à regarder longuement des choses simples. Et on n'est pas en train de se dire donne-moi du savoir pour apprendre à regarder. D'abord, colle-toi l'œil sur les choses, après on en reparle.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratèle et le libucle et lui baruflait les ouillets. Il le tocarde et le marmine, le manage rapari et ripara. Enfin, il l'écorcobalisse.
Ce festival du dessin, je le rappelle, à Arles, c'est une quarantaine d'expositions qui s'attachent autant à mettre en valeur des artistes historiques ou des nouveaux talents. Parmi les grands noms, on en a évoqué Thomas Ungerer, mais aussi celui d'Henri Michaud. Son exposition s'intitule « Henri Michaud sur fond noir » et vous vouliez nous en parler, Stéphane Coréard.
Oui, cette exposition se tient dans le très bel écrin de la Fondation Liufan à Arles, qui est un nouveau partenaire du festival. Et on la doit à un grand spécialiste de l'artiste, Rainer Michael Masson, qui était à la tête du département des estampes du musée de Genève, et qui choisit cet angle particulier pour rentrer dans cette œuvre assez complexe, finalement, qui est celle de Michaud, qu'on connaît comme poète, on l'a entendu juste avant, qui est peut-être aujourd'hui un peu moins connu comme peintre, même si il a encore une rétrospective, par exemple, au Guggenheim à Bilbao, en 2018, et il choisit cet angle des fonds noirs. Ce sont des œuvres qui peuvent avoir été réalisées donc sur papier noir ou sur fond noir, c'est-à-dire un papier blanc sur lequel Michaud a d'abord peint un fond noir, puis ensuite repeint sur ce fond noir, entre 1937 et 1981. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce lieu qu'est la Fondation Liufan, évidemment, ça met en avant la dette de Michaud vis-à-vis de la pensée orientale, et notamment du zen. Il disait, j'ai noté cette phrase, « Le problème de celui qui crée, c'est peut-être qu'il en ait fierté ou bien honte, celui de la renaissance, de la perpétuelle renaissance, oiseau phénix renaissant périodiquement, étonnant de ses cendres et de son vide. » Et c'est ce qu'on voit, en fait, pour une fois, d'habitude, ce qu'on voit souvent dans l'œuvre de Michaud, ce sont ces signes qui s'agitent un peu sur fond blanc, ou alors ces dessins mescaliniens qui viennent de ses expériences sous drogue. Là, ce qui est intéressant, et on le voit dès l'origine de son travail dans les années 30, justement, c'est toute cette vie qui jaillit du noir, en fait, du néant. Il disait aussi, j'ai noté cette phrase très belle en 1938, en parlant de lui à la troisième personne, Henri Michaud dit « Le noir est sa boule de cristal, du noir seul, il voit la vie sortir, une vie tout inventée. » Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit, en fait, des créatures lémuriennes ou protozoaires qui surgissent de l'infini noirceur du papier. Et on pense, et on est dans les années 30, et on pense aux microbes de Max Ernst, au paysage des origines d'Yves Tanguy ou au grouillement cosmique de Miro. On pense aussi, j'ai pensé en tout cas, au film du réalisateur et biologiste Jean Painlevé, que la Galerie Art de Paris a remontré, qu'on a vu aussi au Jeu de Paume. Bref, Michaud évolue en plein surréalisme. On sait qu'il a refusé de rentrer dans le mouvement, mais on voit que non seulement en tant que poète, mais en tant que peintre, il en participe pleinement.
Alors, ce qui est frappant dans ce que vous dites, Corinne et Stéphane, on va parler tout de suite avec vous, Corinne, de Oskar Kokoschka, que l'on connaît évidemment pour ses peintures. C'est un expressionniste autrichien qui avait été déclaré artiste dégénéré par le régime nazi, mais c'est qu'à chaque fois, le dessin est toujours dévalorisé. C'est-à-dire que Thomas Ungerer, on oublie quand même le grand personnage qu'il a été. Kutla, il a choisi ce mode de vie retiré, mais on ne le connaît pas, c'est pas un nom connu. Là, vous le dites, Stéphane Coréard, à propos d'Henri Michaud, on connaît ses textes, on connaît ses expériences sous mescaline, mais ses dessins, ses peintures, pas forcément. C'est la même chose pour Kokoschka, mais pourquoi, Corinne Rondeau ?
Bon...
Vous voulez pas y aller ?
Pourquoi ? Mais non, mais je ne sais pas. Je vais avec le temps qu'on a, on va faire une généralité. Mais pourquoi ? D'abord parce que je pense qu'on oublie vite les choses. Hein, je veux dire, Kutla est français, il est connu au Japon. Enfin, vous voyez, c'est une idole. Bon, pourquoi on oublie ? Ungerer, c'est aussi quand même. C'est pas de l'excellence, c'est pas de l'art. Vous voyez. On va vers de la BD, on ne sait jamais la BD, est-ce que c'est vraiment de l'art ? Enfin, il y a aussi toutes ces catégories. Et ce festival sort des catégories. De la même manière, je me permets de refaire juste une parenthèse avec la Revue de l'Amour.
Donc de Frédéric Pajac.
Pajac, je veux dire, c'est quand même la revue qui vous parle d'une actualité sans la toucher. Cette revue, c'est une manière de dire, on va vous parler de notre temps, mais sans... faire le grand bruit des petites nouveautés qui nous frappent à chaque instant l'oreille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un côté totalement influence inactuelle, essentielle de cette revue L'Amour. Et je pense que cette revue, de la même manière que le festival, c'est une manière de ne pas oublier ce que sont les choses lorsqu'on les situe à leur place. Et lorsqu'on parle de Kokoschka et qu'on voit cette exposition au musée de l'art antique, dans ce très beau musée à Arles...
Donc l'exposition s'intitule « Classique des temps modernes ».
Oui, alors il y a Beuys aussi, mais bon, il y a pas Beuys, mais Kokoschka. Mais en fait, il y a quelques peintures de Kokoschka. Et en fait, Moi, je connais bien la peinture Kokoschka. Et là, quand vous avez une cinquantaine de dessins au crayon de couleur, au fusain, vous dites, mais en fait, c'est là qu'il est, Kokoschka. C'est pas du tout dans sa peinture. Vous, je veux dire, c'est en plus... Alors moi, je me suis arrêtée sur les chevelures parce que vous avez à la fois une ligne qui est à la fois en plein relief, mais d'une densité, d'une affirmation, jamais tremblée. C'est absolument éblouissant. Les portraits de Damaris en couleur, c'est somptueux. Mais je vous assure, alors moi je suis pas du... Stéphane vous le dirait, je suis pas du tout une collectionneuse. Mais là je mettrai tout l'argent que j'ai pour acheter un portrait d'Amaris par Kokoschka. Un portrait de femme. Écoutez, je veux dire, vous ne savez pas sur quel fond il dessine. Mais l'harmonie des couleurs, les formes des lignes qui sont pas sur le modèle, sur la ressemblance, c'est absolument somptueux. Je veux dire, et ça, vraiment, c'est un grand choc de cette qualité chaotique et harmonieuse à la fois. Ça, c'est vraiment une fulgurance, une énergie, un coup d'éclair de la main de Kokoschka. C'est somptueux.
Vous avez même retrouvé votre voix, Corinne.
Oui, mais voilà.
Voilà.
Ah, l'amour.
Voilà, exactement. Grâce à Kokoschka et à ses dessins, on arrive presque à la fin de l'émission, mais on va aborder quand même les nouveaux talents. Vous vouliez parler de Vicky Fischer, Stéphane. Voilà, le dessin fait quand même son retour aux Beaux-Arts, dans les galeries, dans les musées. Il y a une volonté quand même de
oui, alors,
remettre à l'honneur cette discipline.
Une des raisons aussi pour lesquelles le dessin peut-être est un peu sous-estimé, c'est qu'aujourd'hui, c'est la loi du marché qui règne en maître. Le dessin, c'est par définition moins cher et la gravure, ça l'est encore moins. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gravures dans ce festival. Il y a effectivement à l'espace Van Gogh toute une partie qui est sur la ville, la représentation de la ville. Je cite juste malheureusement deux immenses graveurs dans les collections de la BNF, Charles Merion et Adolphe Martial Potémon, que j'ai découvert là et que j'encourage vraiment tout le monde à aller voir. Et c'est comme une sorte de prélude à effectivement l'art de Vicky Fischer, qui est une artiste plus jeune, qui est née en 1981, qui a un CAP de pâtisserie et qui dit « Je viens d'une famille d'artisans ouvriers soucieuse du savoir-faire ». Et effectivement, elle a fait, je crois, les Arts Déco à Paris, l'école des Arts Déco. Et là, elle fait une série de monotypes avec une technique qu'elle a totalement inventée. Ça s'appelle « My Dear Neighbors » de 2023. Elle a fait des photos elle-même de pavillons de banlieue, parfois un peu modernistes, parfois vaguement inquiétants à la Garland Poe, vous voyez. Et puis elle pose la photocopie qu'elle en fait sur un buvard et derrière le buvard, il y a un papier avec de l'encre et en appuyant à l'aveugle, en fait, elle fait des paysages avec une lumière totalement surnaturelle. C'est magnifique.
Alors, on peut aussi évoquer le nom de Lucille Piketty, je la nomme, on en parlera sûrement une autre fois. Corinne Rondeau.
Ce sont des murs, des trous d'ombre, voilà.
Bah voilà, bravo pour ce mot. Allez voir donc le Festival du dessin d'Arles, c'est jusqu'au 19 mai, c'est la deuxième édition. Il y a aussi le catalogue qui est très bien, qui est disponible aux éditions Cahiers Dessinés. Merci à tous les deux, Corinne Rondeau, Stéphane Coréard. On vous met toutes les références parce qu'il y a plusieurs expositions, il y a plusieurs lieux, c'est très foisonnant, sur la page de l'émission et sur l'application aussi Radio France avec tous les débats à réécouter.